commencer, Bezrat Hashem, notre troisième cours sur le thème l'éducation à la Emouna. Nous sommes à la page 16. Dans cette introduction au Shaharut de Emouna, Admour Hazaken a expliqué que lorsqu'on éduque un enfant, on a souvent tendance à vouloir éduquer l'enfant selon la direction où nous, on aimerait que l'enfant arrive. Alors qu'en vérité, le roi Salomon nous a donné un grand principe d'éducation. Il nous a dit « Chanoch lanahar alpi darko ». Éduque le jeune homme selon sa voie. Ça veut dire que ce jeune homme, cet enfant, a un tempérament, a une nature, a une façon d'être. Et toi, en tant que parent et en tant qu'éducateur, ta mission, c'est d'éduquer l'enfant selon les facultés qu'Hachem lui a données pour l'aider à les utiliser de la meilleure façon possible pour accomplir sa mission, pas la tienne. Maintenant, ça, on a expliqué il y a deux cours. Le dernier cours, on a expliqué que de la même façon que dans l'éducation d'un enfant, quand on éduque un enfant, d'accord ? Quand on éduque, de la même façon que quand on éduque un enfant, on doit s'adapter à l'enfant. De la même façon, quand on veut s'éduquer à la Emouna, on doit s'adapter par rapport à notre situation. Et là, j'explique ce que je veux dire. On s'arrête tout de suite la semaine dernière. Une personne qui cherche, qui vise l'amour de Dieu et la crainte de Dieu d'un tzaddik, d'un juste, alors qu'il ne l'est pas, c'est une erreur. C'est exactement comme un parent qui voudrait pousser son enfant à être médecin, alors que son enfant n'est pas fait pour être médecin. De la même façon, quand je m'éduque à moi-même, si je cherche un but qui n'est pas à la hauteur de ce que je peux atteindre, je ne peux pas atteindre cet objectif, c'est une perte de temps. D'un autre côté, parfois, nous, en tant qu'être humain, il arrive qu'on fixe un objectif et qu'après, avec le temps, on se rend compte que l'objectif était trop ambitieux. Ça arrive. Des fois, je dis, bon, je vais essayer de faire ça. J'essaye et ça marche pas. Donc, je dis, bon, c'est trop ambitieux. Parce que l'homme a le droit à l'erreur. Mais Dieu n'a pas le droit à l'erreur. Si Dieu me donne une mitzvah, un commandement de l'aimer et de le craindre, ça veut dire que chaque juif, peu importe son niveau, peut aimer et peut craindre Hachem. Et c'est là l'objectif du cours d'aujourd'hui, et du cours de la semaine dernière et du cours d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment on peut dire que chaque juif peut aimer et craindre Hachem. Finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qui est accessible seulement aux plus grands ou... D'où tu sais que tout le monde peut accéder à ça? Ça, c'est la question. Parce qu'encore une fois, si on me donne une mitzvah de le faire, ça veut dire que je peux le faire. Si on n'est pas sûr à 100% que je peux le faire, on ne m'aurait pas donné une mitzvah. Une mitzvah, c'est un commandement. On m'aurait donné seulement une recommandation. On est d'accord? Par exemple, est-ce qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah 24 heures sur 24?
Oui.
Non. La mitzvah, c'est d'étudier la Torah quand tu peux. Il y a une recommandation, que si tu peux, tu vas étudier la Torah 24 heures sur 24. Pourquoi la Torah n'en fait pas une mitzvah? Pourquoi la Torah n'en fait pas une mitzvah? Non, chaque jour et chaque nuit, c'est pas la même chose. Pourquoi la Torah n'en fait pas une mitzvah? C'est très simple. Parce qu'on peut pas faire une mitzvah de quelque chose qui est impossible. Enfin, en tout cas, qui n'est pas possible pour tout le monde. Or, il y a une mitzvah qui te dit que tu dois craindre Dieu, que tu dois aimer Dieu. Donc s'il y a un commandement, ça veut dire que tout le monde peut réussir. Donc on va essayer de comprendre comment c'est possible. Comment peux-tu dire que tout le monde peut aimer et craindre Dieu? Et si je l'aime pas? Et c'est là que l'Admor HaZaken a expliqué dans le cours de la semaine dernière. On a expliqué qu'en fait, dans l'amour et dans la crainte de Dieu, on va commencer par la crainte. Il y a deux catégories. Une première catégorie d'amour, c'est ce qu'on appelle l'amour de l'enflammement, l'amour de l'aspiration vers Dieu, l'amour de l'extase. Ça, c'est un amour de tzadikim. Et ça, effectivement, cet amour, pas tout le monde est conçu pour l'avoir. Mais il y a un deuxième amour. Et on s'est arrêté là. C'est quoi le deuxième amour? C'est un amour qui est beaucoup plus simple. C'est un amour de réflexion. Quand tu penses, quand tu réfléchis, qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu par rapport à l'humanité? Qui est Dieu par rapport à l'univers? Qui est Dieu par rapport à toutes les créatures qui ont été créées depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui? tu peux pas ne pas aimer Hachem. Et là, on s'arrête là, mais on va développer. On a expliqué une idée très simple. La seule façon d'aimer, c'est de comprendre. Soit tu as des gens qui sont nés avec un sentiment d'amour, bon, comme le tzadikim, celui-là, il aime, tant mieux pour lui. Mais si tu n'as pas ce sentiment, on te dit aime, comment je vais aimer? Faut réfléchir. Par exemple, j'ai devant moi du coca. Peut-être qu'il y a ici devant quelqu'un qui n'aime pas le coca. Comment je peux lui donner un commandement d'aimer le coca? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Quel est le commandement? Le commandement sera de réfléchir au bienfait. Il n'y en a pas, mais au bienfait du coca, d'accord? Et quand tu vas réfléchir, automatiquement, petit à petit, il va commencer à aimer. Et c'est comme ça aussi qu'on s'éduque à aimer Hachem. Comment on aime Hachem? C'est pas qu'on te met un fusil sur la tempe et on te dit « aime Dieu ou je te bute ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hachem, il te dit « j'aimerais juste que tu réfléchisses à ce que je représente. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai créé pour toi, qu'est-ce que j'ai créé pour toute l'humanité ». Et automatiquement, tu vas te mettre à l'aimer. Donc vous voyez, ce que je voulais montrer, c'est qu'il faut toujours chercher à avoir un niveau qui est adapté à notre réalité. Si une personne veut être là à vouloir viser un amour et une crainte de Dieu qui ne sont pas à sa portée, c'est une perte de temps. Vous savez, aujourd'hui, c'est une date particulière, c'est le 28 Sivan. 28 Sivan, c'est la date à laquelle notre rabbi est arrivé aux États-Unis. Alors, quand je dis arrivé aux États-Unis, c'était en 1941. Ça veut dire que pour arriver aux États-Unis, il a pris le dernier bateau qui a quitté l'Europe. L'Europe qui était bombardée. 1941.
Il était envoyé par un navire.
Le navire qui a quitté avant son navire a été bombardé. Et tous les navires qui ont quitté après le navire du rabbi ont tous été bombardés jusqu'à la fin de la guerre. Parce que tout le monde cherchait à s'enfuir. Les Allemands, ils savaient, ils bombardaient partout. Tous les navires, ils allaient à quelques kilomètres, ils bombardaient, il ne restait plus rien. D'ailleurs, le rabbi devait prendre le bateau d'avant. Il a reçu un télégramme urgent juste avant le départ. Il avait le billet, il avait tout. Dans lequel son beau-père lui a dit, ne prends pas le bateau. Sans expliquer. Donc lui, il n'a pas pris. Effectivement, après on a appris que... Après vous allez me dire, est-ce qu'il savait qu'il allait être coulé? Je ne sais pas mes calculs, ça. En tout cas, il a dit, prends pas le bateau. Le bateau suivant, il a pris. Et c'est un bateau qui a été préservé. Donc évidemment, c'est un jour dans lequel on remercie Hachem. Parce que c'est un jour dans lequel il a été sauvé. Il a été sauvé de l'Europe. De l'Europe qui est envahie par les nazis. Le rabbi a perdu de la famille ici. Beaucoup de familles. La rabbinite a perdu de la famille. Ils ont tous perdu de la famille ici. Et eux-mêmes, ils étaient à Paris, en 41, ils étaient à Vichy, ils étaient partout. Paris, Vichy, Nice, c'était en Italie, dans toutes les zones qui étaient compliquées. Bien sûr. Mais bien sûr. Ils étaient là, ils étaient à Paris, en pleine guerre, ils étaient là. Ils étaient à Paris, ici. Et donc, lorsque le rabbi est arrivé aux États-Unis, alors au début, le rabbi n'en parlait pas, mais après, il a publié cette date. Il a dit que c'est la date à laquelle il est arrivé, que c'est une date à laquelle, lui, personnellement, il remerciait Akadosh Baruch Hu. Donc, s'il remerciait Akadosh Baruch Hu, tous les chassidim remerciaient Akadosh Baruch Hu. Bon. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que le jour où le rabbi devait arriver aux États-Unis, le rabbi Yosef Yitzhak, qui était déjà en chaise roulante, a envoyé une délégation de chassidim pour aller accueillir son gendre, notre rabbi. Maintenant, voilà ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, la personne que vous allez accueillir, vous ne la connaissez pas. Pourquoi on ne la connaît pas? Mais on la connaît, c'est le gendre du rabbi. Non, non. Et la personne que vous allez accueillir, c'est une personne qui, à 4 heures du matin, il ne dort pas. Soit il n'est pas encore parti dormir, soit il est déjà réveillé. Putain, mais c'est pas fini. Il dit, la personne que vous allez accueillir, c'est une personne qui connaît tout le Talmud de Babylone, par cœur, le Talmud de Jérusalem, par cœur, les Midrashim, par cœur, les livres de Chassidut, par cœur, les références des livres de Chassidut, par cœur. D'accord? Il dit juste pour vous compreniez la personne que vous allez accueillir. Non, il n'était pas là pour étaler. Mais il n'était pas là pour étaler. Mais juste, il voulait qu'on accueille son gendre avec le respect qui lui était dû. Donc évidemment, les chassidim étaient étonnés parce que notre rabbi, il ne se montrait pas du tout, très discret. Il ne se montrait pas. Mais voilà, c'est quelqu'un, d'ailleurs, vous savez, une fois, c'était quand il donnait un cours à Paris, ici, à la rue de Rosiers. Et c'est une des personnes qui était au cours qui raconte, je crois que c'était un cours tout un jour de semaine. Et il raconte qu'une fois, pendant le cours, il suivait. Et dans le cours, il y avait la Gemara, le rabbi lisait le Talmud, et il y avait le commentaire de Rashi à côté. Et à un moment, il a vu que tout le monde avait une Gemara, et le rabbi aussi avait une Gemara. Et il a vu que sur un mot de Rashi, le rabbi a dit un autre mot. Un mot, pas le mot qui était écrit. Donc il s'est dit, c'est bizarre. Après le cours, je vais aller vérifier dans la Gemara que le rabbi avait dans la main. Peut-être que dans cette Gemara, il y avait une autre version. après le cours, discrètement, une fois que tout le monde est parti, il ouvre la Gemara. Et qu'est-ce qu'il voit? C'était pas le même volume, c'est un autre volume. En fait, il n'y avait pas cette Gemara, donc il a ouvert. Non, il n'a pas dit je vais faire par cœur. Comme une Gemara, ça.
Pour dire qu'on ne fait pas par cœur.
Voilà. Et il a lu. Comment on l'a attrapé? Parce que sur un mot de Rashi, il a dit pas exactement comme c'était écrit. Tout le reste est par cœur, pas de problème.
Sinon, jamais quelqu'un.
Ça, c'est pour montrer à quel point la grandeur du rabbi. Alors, quand tu arrives un jour comme ça, un jour extraordinaire comme ça, un jour dans lequel notre rabbi a été sauvé, et qu'on s'approche de Gimel Tammuz, Gimel Tammuz qui est la yula du rabbi, d'ailleurs, je serai si Dieu veut chez le rabbi pour ce Shabbat. Donc, quand tu t'approches un jour comme ça, tu dis, est-ce que tu peux t'imaginer l'amour de Dieu qu'a le rabbi? Tu peux t'imaginer la crainte de Dieu qu'a le rabbi? C'est pas de l'amour, c'est de l'extase, c'est comme on l'a vu. Seulement, voilà ce que tu dis à Admor HaZaken. Admor HaZaken te dit, on n'attend pas de toi d'avoir ce que tu n'as pas. Toi, tu n'es pas concerné par ça. Tu n'es pas quelqu'un qui connaît le Gemara, le Babylone, de Jérusalem, le Midrashim par cœur. T'es pas quelqu'un qui est comme ça. T'es pas quelqu'un qui, quand il était à Paris, à la Sorbonne, il jeûnait tous les lundis, jeudis.
Il était à Sorbonne?
Oui. Le rabbi, il était à Sorbonne, c'est le rabbi était à Sorbonne, avec une grande Gemara.
Attends.
Une fois, alors, il était avec une Gemara. Et pendant tous les cours, il avait ses Gemara ouvertes. Là, ça se passait ici, à Paris, là. Alors, une fois, il y a un professeur qui le nargue. Qui lui dit, mais vous aurez une note catastrophique, vous étudiez pas, vous êtes pas là. Il dit, ah bon, j'étudie pas, posez-moi une question. Et là, tu ne me suis pas posé une question, deux questions. Et puis, le rabbi répond tout. Il dit, comment c'est possible? Le rabbi était occupé dans ses guémaras. Et en l'espace de quelques minutes, il a capté quelques informations. Et avec ça, il comprenait. Ça veut dire, on passe à une autre dimension. Quand tu entends ça, tu dis, mais moi, je suis quoi dans tout ça? Je suis à des années-lumière, tout ça. Donc je me dis, est-ce que moi, je peux bichal me comparer à ça? Est-ce que bichal, je peux m'attacher à ça? Qu'est-ce qu'on te répond? On te dit, encore une fois, on ne te demande pas d'être ce que tu n'es pas. On te demande d'être ce que tu peux être. Il y a deux catégories d'amour d'Hachem. T'as un amour d'Hachem, des tzadikim, l'extase, etc. Ça, pas tout le monde peut le mériter. T'as un amour d'Hachem qui est plus adapté, qui a une autre portée.
Et comment on peut savoir qui on est?
C'est très simple, on le sait mieux que tout le monde.
Pas forcément, non.
On voit exactement où on peut arriver, on peut pas arriver.
Des fois, on sait comme ça, ouais.
On sent. Je sens pas. Si tu me poses la question maintenant, est-ce que tu aimes Dieu? Tu sais. Si tu l'aimes, tu l'aimes. Tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. C'est-à-dire, tu sens tout de suite. J'ai quelque chose devant moi. Je vois.
Tu l'aimes pas. Tu veux dire que
quoi?
L'aimes pas, c'est ce que ça veut dire, le...
Non, j'ai pas dit que j'aime pas. J'ai pas dit que j'aime pas. Attention.
Mais pas oui, tu es pas attiré par.
En français, il y a deux mots. Il y a ne pas aimer et il y a détester.
Oui.
Personne dira qu'il déteste Dieu.
Chazal
Shalom. Mais une personne peut dire j'aime pas.
Je
connais pas. J'aime quoi finalement?
Je trouve que, excusez-moi, mais je trouve que...
Non mais comprenez, je reprends la question. Tu me dis j'aime Dieu, tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes Dieu comme tu aimes un beefsteak?
Non.
Mais alors,
non,
qu'est-ce que tu aimes alors?
Je parle
pas
de
ça.
Non, je parle à Serge.
C'est
celui
qui m'a créé, qui m'a
Ah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'aimer, tu fais appel à ton intellect. Non, à ton intellect.
Oui, il
y a un intérêt.
Donc tu réfléchis.
Oui, mais...
C'est-à-dire que la réflexion peut te permettre d'aimer Hachem. C'est exactement ce que dit Admor HaZaken. Et dit l'Admor HaZaken, c'est la raison, ce que tu viens de dire, c'est la raison pour laquelle il y a une mitzvah d'aimer Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde peut le faire. Ce que tu viens de dire, tout le monde peut le faire. Même un enfant, il peut faire ça. Tu lui dis, viens, assis-toi à côté de moi. On parle 5 minutes. Non. 5 minutes. Je vais te parler, je vais te dire qu'est-ce que Dieu il a fait pour toi. Tout de suite, tu vas dire, mais j'ai compris. Dieu, c'est le plus grand.
Bien sûr, etc.
Tu peux pas ne pas avoir quelque chose. Après, c'est pas un amour du cœur, c'est un amour rationnel, mais c'est quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah. Parce que c'est possible, c'est faisable. Oui, vous avez une question?
Non, quand je parlais pas de l'amour de Dieu, je parlais d'un individu. Un individu, il évolue, vous parlez d'enfant. Si on prend un enfant, on va lui expliquer ce que c'est Dieu, il va pas comprendre.
Oui.
Il va pas forcément adhérer au départ. Après, un homme, une femme évolue avec le temps, en vieillissant. On acquiert des choses, on acquiert des raisonnements, on se rapproche de la mort, entre guillemets. On commence à réfléchir, à se poser les bonnes questions.
Oui.
Et des fois, il y a des choses qui se révèlent en nous, petit à petit, avec le temps. Parce qu'on a besoin de comprendre un peu l'environnement dans lequel on évolue.
Mais ça reste un amour rationnel.
Ça reste... Non.
C'est bon.
En vieillissant, ça devient un amour irrationnel, complètement irrationnel.
Quoi?
Je dis, en vieillissant, ça devient un amour complètement irrationnel. Aujourd'hui, moi,
oui, mais on est très loin de l'extase. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en extase devant Dieu?
Moi, je suis en extase devant Dieu, moi.
Ah bon ? Je vais vous embrasser les pieds alors.
On est dans deux cas.
Non, je reviens. Mais pas. C'est Michel. Maintenant, c'est Eric. Lui, il a voyagé avec Air Jamaïque.
Entre temps, il est parti à Deauville.
Lui, il est parti à Air Jamaïque.
Est-ce qu'on éduque nos enfants ou est-ce qu'on les met en culture ?
Biftec.
Est-ce qu'on les met en culture ou on les éduque nos enfants ?
C'est
ça le problème. Mindy.
Oui.
T'as trouvé un remplaçant de quête.
Mindy, est-ce que.
Attendez, je réponds à sa question. Une seconde.
Oui, parce que je voulais dire qu'on parlait des enfants tout à l'heure. Et moi, je reprends derrière sur les enfants. L'enfant, on les éduque, mais on n'est pas des vaches, c'est pas des animaux, on va pas élever nos enfants. T'entends souvent, je les ai élevés. Mais non, c'est pas des animaux.
Est-ce qu'on peut dire que devant Dieu, on a des palpitations quand je pense à Dieu ?
Alors,
non. Voilà. Moi, est-ce que je peux dire que je tremble quand je pense à Dieu ?
Moi, je peux.
Moi,
non. Dites-nous si vous êtes comme ça. Moi, je suis pas comme ça.
Moi, je suis. Je suis passionné de tout ce qui est animaux,
biologie. T'es admiratif.
Plus je tombe sur des reportages, plus je tombe sur des.
Voilà la grandeur des
scientifiques. Plus j'évolue, plus je rentre dans la connaissance, à mon petit niveau, parce que je ne suis pas scientifique de formation, et plus je me dis que.
Mais à la main de Dieu.
Je suis en extase. Oui, je suis en extase devant la complexité. Et encore, on est sur des choses que Dieu veut bien nous laisser.
Donc, ça c'est un amour rationnel. Mais c'est très bien.
Pour que c'est rationnel.
Bien sûr, c'est rationnel.
Bah, non, c'est pas très rationnel.
Si. Mais bien sûr, c'est rationnel. Si, parce que c'est basé sur une compréhension.
C'est la constatation.
Non, c'est moi je comprends.
Oui, mais
il n'y a rien à comprendre.
Oui, mais ça veut dire c'est basé justement, c'est rationnel. Mais c'est très bien. C'est très très bien. Parce que c'est ce qui te dit l'Admor HaZakeh. Une personne qui n'est pas tzadik, son amour sera rationnel. Et c'est très bien. C'est ce qu'on attend de nous.
C'est pas une réflexion.
C'est pas un défaut, c'est une qualité.
Oui, oui, j'entends bien.
Ok. Donc, tu te dis maintenant, alors il y a aussi une autre idée quand on veut penser à l'idée comment j'aime Hachem. Pourquoi j'aimerais Hachem ? Deux raisons. Première raison, on vient de l'expliquer, j'aime Hachem parce que je vois qu'Hachem est tout pour moi. Mais c'est pas seulement ça. On avait expliqué dans un des chapitres de Tania, il y a quelques mois, que l'amour est réciproque. Quand tu sens que quelqu'un il t'aime très fort, automatiquement, toi aussi, tu vas te mettre à l'aimer. Alors, est-ce que Dieu nous aime ?
Mais t'es obligé, ça.
Oui. Bien sûr que Dieu nous aime. D'où on sait que Dieu nous aime ? Dieu, il nous aime parce qu'on l'a vu. Vous savez qu'on va lire dans les mots. Vaharkarit Bonen, page 16. Vaharkarit Bonen, Be'ahavat Hashem Agdola Venifla Elenu. Après quoi, il méditera sur l'immense et extraordinaire amour de Dieu envers nous. Les règles, les Mitzrayim, Mervat Aretz. Comment Dieu est descendu en Égypte. L'Égypte qui est la nudité, l'infamie de la terre. Léotsi Nishmotenu Mikura Barzel Shiwa Sitra Harara. Dieu est descendu pour extraire nos âmes du creuset de fer qui est l'autre côté. En d'autres termes, on était vraiment dans la galère quand on était en Égypte. Et il n'avait aucune raison de nous sortir de là-bas parce qu'on était tombé très bas. C'est pas juste qu'on était esclaves là-bas, on est devenu idolâtres. Donc Dieu, on n'était plus intéressant pour Dieu. Normalement, tu dis c'est normal, c'est ses enfants, c'est les descendants d'Abraham, etc. Mais quand on a vu ce qu'on était devenu quand on était en Égypte, on est devenu idolâtre. Et pourtant, est-ce que Dieu il a dit laisse tomber, ils sont idolâtres, laisse les croupir dans leur prison, ils ont qu'à rester comme ça ? Qu'est-ce que Dieu a fait ? Non. Les karvenu elav ou les dafkenu bishmo mamash. Dieu nous a rapprochés de lui, nous a attachés à son nom, les ushmo echad, il nous a sauvés. Ça veut dire que Dieu nous a élevés de la bassesse et de l'impureté absolue vers la sainteté la plus parfaite, et sa grandeur béni soit-il sans fin ni limite. On avait expliqué ça longuement dans le chapitre 47 du Tanya. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vérité, quand tu réfléchis à ça, tu dis que Dieu, il se mouille grave pour nous, beaucoup plus que ce qu'on mérite. Et quand tu penses à ça, tu peux pas ne pas aimer Hachem. Quand tu vois tout ce que Hachem fait pour toi, les cadeaux qu'Hachem te donne, extraordinaire. Azaï, Kemaïm, Apanim, Lapanim, comme l'eau, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Je vous rappelle, ça on l'avait expliqué ça aussi. Quand tu vas dans un cours d'eau, quand tu regardes l'eau, qu'est-ce que tu vois ? Ton reflet. Parce que c'est la notion de réciprocité. Et quand tu fais une grimace, qu'est-ce que tu verras dans l'eau ? Une grimace. Quand tu fais un sourire, qu'est-ce que tu verras ? Un sourire. Quand Dieu t'exprime un amour profond envers toi, qu'est-ce que tu fais ? Automatiquement, tu exprimes un amour. Essayez de faire attention, même dans la rue ou même avec vos enfants, avec qui vous voulez. Souriez. Et vous allez voir que les gens autour de vous vont commencer à sourire. Non, j'ai pas dit le sourire, le pleur est communicatif, le sourire communicatif. Mais moi, chez les filles miroirs, souriez et vous allez voir, observez autour de vous, les gens vont se mettre à sourire. Voilà, souriez là, vous souriez là.
Il dit à l'instant, il dit, on voit pas Dieu.
Attendez, attendez, deux secondes. Il faut qu'on arrive au bout du raisonnement.
J'arrive.
Donc, dit l'Admor HaZaken deux choses. Soit tu es tzadique, et dans ce cas-là, ton amour, il est inné en toi, c'est de l'extase, etc. Mais ça, je pense, ça ne nous concerne pas. Nous, on n'est pas de ce niveau-là. Alors, comment on peut avoir l'amour d'Hachem? Comment on peut avoir l'amour de Dieu si on n'a pas cet amour inné?
On lui demande.
Deux choses. D'abord, premièrement, réfléchis. Réfléchis tout ce que Dieu a fait pour toi, tout ce, qu'est-ce que Dieu représente. Et tu peux pas ne pas être impressionné de la grandeur d'Hachem et être admiratif. C'est le mot. Admiratif. On est plein d'admiration. L'admiration, c'est de l'amour. C'est déjà le début de l'amour. Quand tu admires la nature d'Hachem, tu admires la 5, d'accord? Tu admires, tu admires, etc. Ça veut dire que tu es en admiration devant Hachem. L'admiration, c'est un début d'amour. C'est bien. C'est-à-dire, tu dis, mais il est grand, il est énorme, et plus tu te rends compte à quel point. Je pensais à ça cette semaine. Regarde, on a eu quelques jours de canicule à Paris. En France. En Europe. Voilà, d'où est venue cette canicule? Attendez, un vent du Sahara. Mais il y a tout le temps des vents chauds au Sahara. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais un petit cyclone qui s'est formé quelque part au niveau de la mer.
Ouais.
C'est un petit cyclone, pas grand-chose, quelques kilomètres. Petit cyclone. Ce cyclone, il a des milliers de kilomètres du Sahara. Oui, on peut le voir dans la carte. Il est loin, il est très loin. Il est après la France. Maintenant, ce petit cyclone qui s'est passé ici a chamboulé des milliers de kilomètres autour de lui. Il a fait qu'il y a un vent qui est venu là, qui est resté bloqué là, etc. Et tu dis, mais avec toute la technologie qu'on a fait, est-ce qu'il y a une personne ici qui était capable de dire, attendez, le cyclone, on va le débloquer, on va le retourner, etc.
Impossible.
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 C'est-à-dire, nous, on peut juste éventuellement regardez. Essayer de
comprendre.
D'observer. Mm-hmm. Et encore. D'observer et de dire, ah, il y a un cyclone, donc ça veut dire qu'il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça, etc. On est des observateurs.
Et encore.
C'est ça la météo. La météo, ça veut dire, on te dit, voilà, bah écoute, a priori, il y aura ça. Bon, on est de plus en plus précis, grâce à Dieu. Mm. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, tu t'imagines la grandeur d'Hachem? Quand j'ai vu ça, je dis, mais juste ça, là, je vois un truc comme ça. Est-ce que tu vois pas la puissance de la main d'Hachem? Alors, c'est vrai que ceux qui veulent pas dire Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire la mère nature. Oh, très bien. Dis-moi, Tartampion, si tu veux pas dire Dieu, y a pas de problème. Si c'est le mot Dieu qui te dérange, dis pas Dieu, pas de problème. Dis Tartampion. Mais tu vois bien qu'il y a un phénomène. Il y a un phénomène qui c'est pas surnaturel, au contraire. Il est naturel, mais c'est la nature elle-même. C'est un phénomène qui est extraordinaire. C'est-à-dire, tu te dis, toi, t'es impressionné quand tu fais décoller un avion et que l'avion, il te fait un truc comme ça. Mais là, c'est des puissances extraordinaires. Et avec ça, on s'est limité uniquement à notre planète. Maintenant, imagine-toi l'impact que va avoir ce vent sur toutes les planètes autour.
Exactement.
C'est-à-dire que ce petit cyclone, qu'est-ce qu'il a fait autour? Parce que tout ce qui se passe sur la Terre a des répercussions sur toutes les planètes autour. Hein? Est-ce qu'on est capable de mesurer ça? Incapable. D'accord? Des vitesses de rotation, des atmosphères, dès que ça monte, ça descend, c'est à l'infini. Il y a aucun calculateur au monde qui est capable de calculer tout ça. Et tu dis, mais c'est extraordinaire. C'est énorme. Tu peux pas ne pas être en admiration devant ça, devant Hachem. C'est de l'admiration. Après, tu réfléchis, tu dis, tu vois ce grand Hachem qui est énorme, qui a pas de compte à me rendre parce qu'il est vraiment grand, 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 grand. Tu crois, tout ça, c'est lui. Tout l'univers, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Je suis comme ça. Et tu dis, ce grand Hachem, il est venu, il s'est occupé personnellement de moi, de mon peuple. Il est venu. Il nous a fait sortir en Égypte. Il s'est occupé de nous dans le désert. On a râlé un peu. Il dit venez, je vous garde ici au chaud. Je vous mets du froid. Je vous mets la cuisine dans le désert. Je vous mets ci, je vous mets ça. Vous râlez, on va vous donner ci. Il s'est occupé de nous. Il s'est occupé de nous comme un père il s'occupe de son fils. Alors on peut dire attendez, moi j'ai d'autres chats à fouetter.
Ah oui.
D'accord, j'ai d'autres choses à faire. Tu peux pas ne pas aimer Hachem quand tu réfléchis à tout ça. Alors c'est vrai que c'est pas un amour d'extase. C'est un amour rationnel. C'est un amour calculé. Mais c'est déjà un amour qui est très bon. Et ça, tout le monde peut arriver à ça. Personne peut dire, ici, autour de la table et dans le monde entier, je ne peux pas faire ça. N'importe quelle personne, tu t'assois, tu réfléchis. C'est quoi, à quoi ça ressemble? C'est comme si t'as un fils qui dit, j'aime pas mon père. Tu dis, attends, assis-toi. Seconde, assis-toi. On va réfléchir ensemble, d'où tu sors? Qui s'occupait de toi depuis ta naissance? Qui s'occupait de toi? Alors j'espère qu'il a effectivement un père qui s'occupait de lui, sinon on est embêté. D'accord? Effectivement, on peut comprendre que des fois, c'est un autre problème, mais voilà, assis-toi, qui s'occupait de toi, qui a travaillé pour toi, qui s'est occupé de toi pendant les nuits, qui s'est occupé de toi pendant la journée, qui t'a payé l'école, qui pensait à toi tout le temps. C'est ton père. Il t'a fait tellement, tu peux pas ne pas l'aimer. Et là, l'enfant va dire, bon, c'est vrai, je l'aime, mais bon, je suis fâché avec lui. Vous savez, c'est comme, des fois les ados, ils sont un petit peu rebelles. Des fois, c'est très grave, c'est assourd. Mais ils se permettent. Une fois, j'ai assisté à ça. Une fois, j'ai vu un ado, pas religieux. Il s'est permis d'insulter, de dire des mots un peu, d'insulter ses parents devant eux. Tu vois, son père dit, ah, t'es un imbécile, etc. Bon, de montrer, on l'a calmé. Et après, qu'est-ce qu'on entend? On entend après un des copains du fils qui est là, hein, qui dit, ouais, de toutes les façons, ton père, c'est un imbécile. Hein. Il s'est pris une droite. Makara dit, mais tu viens de nous dire, toi, il n'y a même pas 5 minutes, t'arrêtes pas de nous dire, mon père, c'est un imbécile. Ah, pourquoi que moi, je le dis, t'es dérangé. Viens, t'as pas compris. Et moi, quand je dis ça, bon, c'est moi qui dis ça. Mais toi, tu parles pas sur mon père. Comment t'expliques ça?
C'est bien son père.
Comment t'expliques ça? Qu'il est là à casser du sucre, à insulter des fois, c'est assourd. Mais dès que c'est un autre qui fait, toi tu te tais. De quoi il se mêle exactement? De quoi il se mêle? Dis-toi. Ça veut dire qu'en vérité, même si l'enfant passe par une phase compliquée, une phase de rébellion, mais il garde quelque chose envers ses parents. Il ne sait pas encore comment l'exprimer, il ne sait pas, etc. Mais il y a quelque chose, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Et s'il n'y a pas, des fois il n'y a pas. Alors il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et les enfants qui sont moins sentimentaux que d'autres. Ok, pourquoi pas? Dans ce cas-là, il faut réfléchir. Tu vas réfléchir, qui est ton père, qui est ta mère, qu'est-ce qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu lui dois, etc. Et quand tu réfléchis à tout ça, tu peux pas ne pas être redevable et admiratif de ton bienfaiteur. Ton bienfaiteur, c'est tes parents. Alors, de la même façon, quand tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas ne pas être admiratif de Kadosh Baruch Hu. Ça, ce que je vous dis, c'est un amour qui est accessible par tous. Tout le monde peut faire ça. Donc, tout le monde peut s'éduquer à la Emouna. Personne peut dire, c'est pas pour moi. Il y a des gens qui vont te dire, moi, mettre les tefillines, je sais faire. Faire le Shabbat, je sais. Tu parles Emouna, aimer Dieu, craindre Dieu, trop compliqué. Prends pas la tête avec ça. Tu dis, non, c'est une mitzvah comme une autre. Et tu peux le faire. Ok. Maintenant, on va passer à la page 17. Ve'iné. Maintenant, on va comprendre un texte très particulier. Regardez, page 17. Troisième paragraphe. Ve'iné. Or, Inyan avazo ratzam Moshe Rabbeinu alav shalom litab elav Israël. C'est exactement le sujet de cet amour que Moshe Rabbeinu voulut enraciner dans le cœur de tout Israël. Mais par Racha Ve'ata Israël. Dans le Chumash Devarim, dans le Deutéronome, là, il y a une paracha très bizarre. Moshe Rabbeinu, il parle au peuple juif, et il leur dit, et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu te demande? Seulement de le craindre, et de l'aimer, et de faire tout ce qu'il te demande. Seulement. La Gemara pose la question, elle dit, mais quoi seulement?
Rien que ça.
Rien que ça. Comme tu dis, qu'est-ce que je te demande? Qu'est-ce que je te demande? 1 million d'euros, 1 million de dollars, la planète, etc. Tu veux pas? Rien que ça. Une seconde. Mais Moshe, tu vois, tranquille. Il dit, qu'est-ce que je te demande? Seulement de le craindre, de l'aimer, de faire ses mitzvot. La Gemara pose la question. Elle dit, mais c'est quoi seulement? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, oui, pour Moshe, c'est facile. Mais Moshe, ça, j'en doute pas que c'est facile pour lui, mais pour nous. On va être expliqué ici à la Moura, c'est quelque chose de très fort. Il dit, c'est exactement cet amour que Akadosh Baruch Hu a voulu inculquer à chacun de nous. C'est ça l'amour que Moshe Rabbeinu a voulu inculquer. Il a dit, je sais très bien que l'amour que moi j'ai envers Akadosh Baruch Hu, peut-être il y en a qui l'ont, peut-être il y en a qui l'ont pas. C'est pas ça que je vous demande. Je vous demande une crainte simple. Un amour simple. La crainte d'Hachem, c'est facile à avoir. Quand tu réfléchis à quel point Dieu est énorme, à quel point pour un petit cyclone, ça te fait chambouler le monde entier, tu peux comprendre quand tu fais le malin, Akadosh Baruch Hu, avec le petit doigt, il peut te faire chambouler ta vie. Donc, automatiquement, t'as la crainte d'Hachem. C'est une crainte qui est rationnelle, mais c'est une crainte que tout le monde peut avoir. Tu comprends que la vie, finalement, tient à un fil. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Tout le monde peut le comprendre. Ce que vous croyez, quand vous allez, par exemple, aux urgences, vous avez un enfant qui s'est cassé un truc, bon, c'est des bêtises, des babioles, vous allez à l'hôpital, vous allez aux urgences. Regardez les gens qui sont autour de vous, dans les urgences. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est dans les urgences? Observez. D'accord? Voilà, bon.
J'ai rien demandé.
Donc, regardez, qui y a aux urgences? J'ai dit le mot urgence. Alors. Hein? Qui y a là-bas? Il y a toutes sortes de personnes, de toutes sortes de catégories. T'as des gens qui sont habillés très bien, t'as des gens qui sont habillés moins bien. Maintenant, est-ce que parce que t'es mieux habillé, est-ce que parce que t'as un meilleur statut social, tu auras une meilleure santé, t'auras peut-être un meilleur docteur.
Pas aux urgences.
Après,
quand t'arrives là-haut, t'es tout.
Exactement. Non, mais imaginons que t'auras un meilleur docteur. Alors imaginons. Et dis-moi, je l'ai amené à l'hôpital américain. Ok, elle l'a amené à l'hôpital américain. Ok, voilà. D'accord, hôpital américain. Même à l'hôpital américain. Une maladie, c'est une maladie. D'accord. Exactement. Comment tu expliques ça? Ça veut dire que tout le monde comprend que finalement celui qui aura le dernier mot, c'est HM. Donc, Yira, la crainte d'HM, c'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit au Bnei Israël, il dit, je ne suis pas en train de vous demander la lune. Je ne suis pas en train de vous demander la lune, je vous demande des choses simples. Craindre Hachem, c'est facile. Comment c'est facile? Je ne crains pas. Bien sûr c'est facile. Réfléchis, qui est Dieu? Prends un peu de recul, tu vois tout de suite qu'il est énorme. Tu ne peux pas ne pas le craindre. Pareil, aimer Dieu, c'est énorme. Tu dis, mais Dieu, il est tellement grand. Comment je peux ne pas l'aimer? Comment je peux ne pas être admiratif? Bien sûr que je vais l'aimer. C'est ce que mon cher Benoît dit. Mon cher Benoît dit, vous êtes là, vous avez peur. Vous savez, c'est un peu comme un jeune qui est là devant un examen. Il a un examen, il a 30 questions, il ne sait pas par où commencer. Il a peur, il ne sait pas par où commencer. Il voit 30 questions, il voit noir. Il voit que du noir. Il a envie de prendre la copie, de la poser, de rayer, de dire c'est bon, j'ai pas envie de faire. Mon cher Benoît dit non. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Il dit, vous, le problème que vous avez, c'est que vous prenez la copie et vous dites, j'ai envie d'être Einstein. Tu dis, mais je ne suis pas Einstein, donc c'est pas bon, je laisse tomber. Il dit, mais non. Toi, t'es pas été créé pour être Einstein. Peut-être tu seras Einstein un jour. Pour l'instant, tu ne l'es pas. Alors, tu vas répondre aux questions comme une personne de ton envergure pour répondre aux questions. Et c'est ce qu'on attend de toi. C'est ce que dit Moshe Rabbeinu. Je n'attends pas de vous d'avoir l'amour et la crainte d'Hachem que moi j'ai. J'attends de vous d'avoir l'amour et la crainte d'Hachem que vous pouvez avoir. Et ça, vous pouvez le faire. Il suffit de réfléchir. Et c'est pour ça que quand on regarde là-bas dans la parashat Va'etranan, parashat Varim, parashat Va'etranan, lorsque Moshe Rabbeinu, il présente au Bnei Israël, il leur dit, comment il leur présente ça? Il leur dit, qu'est-ce que Dieu te demande? Seulement de l'aimer, de le craindre, de faire toutes ces mitzvot. Et là-bas, il rajoute, il dit, mais c'est à Dieu qu'appartiennent la terre et les cieux, et ce qu'il y a au-dessus des cieux. Pourquoi tout d'un coup, il leur parle de la terre et des cieux? Parce qu'il veut les pousser justement à prendre du recul. Leur dire, quand tu es nombriliste, quand tu te concentres que sur ce qui est à toi, qu'on m'a donné, on m'a pas donné, bien sûr, tu n'arrives pas à aimer et craindre qui que ce soit. Tu dis, la seule personne que j'aime et je crains, c'est moi-même. Quand tu prends un peu de recul, tu comprends qu'il y a un grand monde autour de toi. Tu comprends qu'il y a des paramètres que tu ne maîtrises pas du tout.
Tu peux aimer les autres.
Là, tu commences à comprendre qu'il y a un patron derrière tout ça. Et tu ne peux pas ne pas l'aimer. C'est ça ce que mon cher nous voulait dire au Bnei Israël. D'accord? Elle patronne.
Hein? Après Dieu. Après Dieu.
Elle patronne.
C'est déjà. C'est marqué patron. Ah ouais.
Parce qu'on dit elle patronne ou le patron?
Elle patronne.
Elle patronne.
Michel. Ligne ou la traveineuse?
Voilà. Attention, il y a des choses, il ne faut pas l'embêter.
Elle le calibre. Tu as le calibre.
Il y a un problème.
Il n'y a pas
de contrôle. Tu fumes, non?
Voilà.
Ah, ça, c'est
pas très normal. Ok. Et on voit comment, c'est intéressant, comment Moshe Rabbeinu fait un effort de communication avec nous. C'est quoi la communication? Comment tu fais la communication? Tu vas montrer à une personne des choses qu'il voit déjà, mais qu'il n'a pas bien vu. C'est la communication. Tu n'es pas là pour lui apprendre des nouveaux faits. Tu lui dis, voilà, je te montre ce que tu connais déjà, mais je vais te le présenter. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il commence à leur parler. Il dit, regardez, vous voyez le ciel, la terre, et les cieux des cieux. Et il leur raconte l'histoire. Dans la parasha Va'etranan là-bas. Il leur dit, regardez, quand on est arrivé en Égypte, on était combien?
70
personnes. Regardez combien on est sortis. Regardez comment ils voulaient nous détruire. Il leur raconte l'histoire. Maintenant, il leur raconte une histoire qu'ils connaissent déjà, puisqu'ils la vivent. Pourquoi il leur raconte l'histoire? Il a que ça à faire, mon cher Abénou. Cher Benou, c'est le rabbi de sa génération. Je crois qu'il a que ça à faire, dire, vous savez, on est sorti d'Égypte, Dieu nous a fait les 10 plaies, mais on le sait déjà, qu'est-ce que tu nous racontes? Ça va, on connaît. Mais non, je sais que vous connaissez. Mais peut-être que vous n'avez pas pris assez de recul pour comprendre qu'est-ce que c'est, que c'est pas normal, que c'est extraordinaire. Et quand tu prends du recul par rapport à tous les événements qui arrivent dans ta vie, tu peux pas ne pas être reconnaissant envers Hachem. C'est pas possible. Ou la crainte ou l'amour, ou les deux. La crainte de sentir que ça te dépasse, Et l'amour de sentir que justement je suis admiratif devant un Kadosh Baruch Hu. Des fois on arrive à voir les deux en même temps, des fois on a l'un, des fois on a l'autre, mais il y a quelque chose. Tu peux pas dire j'ai pas de sentiment envers Hachem. Pourquoi t'as pas de sentiment? Si t'as pas de sentiment, ça t'as pas réfléchi. Utilise ta tête. Tu automatiquement tu vas sentir qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que si t'es capable, je vais donner un exemple, je ne donne pas ici, mais si t'es capable par exemple, aujourd'hui il y a des gens qui sont admiratifs par exemple devant les États-Unis. Ils disent, ah, les États-Unis ils ont la main partout. Si t'es capable d'être admiratif devant les États-Unis d'Amérique, Big Brother is watching you, hein, comme il disait à l'époque. Big Brother il te regarde, bon. D'accord? Non mais voilà. T'écoutes. Tu sais combien de satellites qui tournent autour, voilà, en orbite? Hein? Est-ce que vous savez combien de satellites tournent en orbite?
Des milliers.
Hein? Des milliers de satellites. Des milliers. Hein? Il y a des milliers de satellites. Là, au moment où je te parle, autour de la Terre, autour de la Terre, tu as 6000 satellites qui tournent. Sur les 6000, tu en as 2500 environ qui sont en fonction. Et les autres, bah, ils tournent toujours, mais ils fonctionnent plus. Ils sont désactivés, ils cherchent des solutions pour les récupérer, pour les enlever, parce que ils tournent. Tu l'arrêtes pas là-bas, ils tournent. Hein, ils peuvent rester là-bas pendant 10 000 ans, ils bougera pas. Il y a pas l'atmosphère. Donc, quand il n'y a pas l'atmosphère, les choses ne se rouillent pas, ils se détériorent pas. C'est pas la même chose.
Ils vont être attirés par le.
Oh, peu importe. C'est pas notre. On n'est pas venu faire un cours de physique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu dis regarde, tu t'imagines. Juste une personne qui réfléchit à ça, aux États-Unis, qui réfléchit aux superpuissances, dit ah, superpuissance. Pourquoi quand tu penses aux superpuissances, tout de suite t'es admiratif. Ou t'es admiratif ou tu as peur, un des deux. Parce que tu prends du recul, tu comprends quelque chose de très grand qui te dépasse. Maintenant, pourquoi tu fais pas la même chose avec Dieu? C'est pas que Dieu il est un satellite, t'es pas un satellite, Hachem, mais comprends que, avec tous les satellites que tu veux, etc., finalement, l'homme se limite majoritairement à faire l'observation. Il produit un tout petit peu. C'est-à-dire, ce que l'homme produit par rapport à ce que la nature produit, mais c'est incomparable. C'est incomparable. C'est-à-dire, regardez la puissance de la nature. Nous, on arrive un petit peu à maîtriser un petit peu la nature. Un petit peu. Et avec ça, on en fait un plat. T'as vu, on a maîtrisé. Mais quand tu comprends qu'en vérité, la force de la nature est beaucoup plus grande, tu te dis, mais c'est extraordinaire. C'est comme, je parlais de ça avec mes enfants. On était partis au salon du Bourget, d'accord? Là-bas, c'est impressionnant. Tu vois un avion qui te monte comme ça. Oh, impressionnant. C'est impressionnant. Tu vois une fusée, t'as déjà vu une grande fusée comme ça. Moi, tu la vois décoller, mais tu vois, c'est impressionnant. C'est un engin. Ils font des vidéos, ça décolle, etc. Je dis, c'est extraordinaire. Ça défie les lois de la nature, ça. Seulement, quand tu réfléchis un peu plus, tu dis, mais finalement, les lois de la nature, personne ne peut les défier. On peut éventuellement, temporairement, peut-être monter, etc. Mais est-ce que, par exemple, quelqu'un peut empêcher le soleil de se lever? Avec toutes les technologies qu'on a, est-ce qu'on peut empêcher le soleil de se lever? Voilà, imaginez maintenant... Imaginez par exemple qu'il y a un fou, il y a un Staline qui vient, qui dit, j'ai décidé que dans mon pays, il n'y aura pas de lumière aujourd'hui.
Un grand rideau.
Tu peux pas décider. Ouais. C'est-à-dire que le jour où le soleil se lève, tu peux sauter, tu peux être le dictateur que tu veux, tu peux pas décider que si le soleil se lève ou se lève pas. Il se lève, et c'est tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que la venue du Mashiach est comparée au soleil qui se lève. Pourquoi? Parce que la Gemara dit comme ça, deux choses. D'abord, lorsque le soleil se lève, il se lève petit à petit. Il se lève pas d'un coup. De la même façon, lorsque Mashiach arrive, il n'arrive pas d'un coup. Petit à petit. Mashiach, il arrive, il n'annonçait pas. Mais deuxième chose, d'accord? Mais petit à petit, il fait jour. Deuxième chose, c'est que lorsque Mashiach devra venir, personne ne pourra l'empêcher. De la même façon que le soleil, personne ne peut l'empêcher. Quand le soleil se lève, personne ne peut l'empêcher. Et quand le soleil va se coucher, personne ne peut dire non, on ne va pas te coucher. Personne ne peut le retenir. Je ne rentre pas dans la question qui tourne autour de qui, ce n'est pas la question aujourd'hui. Ce que je vais expliquer simplement, c'est que tu comprends qu'il y a des phénomènes que l'homme ne peut pas maîtriser et qu'il ne pourra jamais maîtriser. Quand tu réfléchis à tout ça, tu ne peux pas ne pas être admiratif devant Hachem. Parce que les gens ils disent oui, c'est la nature. Mais comment elle s'est mise en place cette nature? Alors bing bang, bing bang, bing bang, bing bang. Comment tu peux expliquer tout ce système qui tourne, d'accord? Un système qui tourne avec une perfection, une précision d'une horloge suisse. C'est même pas une précision d'une horloge suisse. C'est qu'on règle les horloges avec le soleil. Parce que d'où tu sais que t'es à la bonne heure? C'est quoi les montres, l'horloge la plus précise? Tu sais, c'est quoi l'horloge la plus précise?
Solaire.
Il n'y a rien de plus précis que l'horloge solaire. C'est précis, de chez précis. Mais comment ça peut être tellement précis? Comment ça peut être une précision comme ça? Alors nous, l'être humain, comment on se galère pour avoir une montre précise? Là, on te parle d'une immensité d'un univers. Comment il peut être prêt à une telle précision? Ça ne s'est pas fait tout seul. Pas possible. C'est impossible que c'est fait tout seul. Quand tu réfléchis à tout ça, plus tu prends du recul, plus tu es impressionné, tu es admiratif. Et là, tu commences à avoir une crainte, parce que tu dis, bon, je comprends que ce Dieu est tellement grand, mais moi, d'un autre côté, j'ai intérêt à pas faire le malin. Et ce Dieu, chaque détail est important pour Hachem. C'est pas que tu dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, je passe entre les mailles du filet. Non, je passe pas entre les mailles du filet. Hachem, il te regarde. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu dit. Quand tu reprends, je vous conseille vivement de prendre, quand vous avez le temps, de prendre la parashat Devarim, mais surtout la parashat Vaetranan, chapitre 10. Prendrez, voilà, dans le Chumash Devarim, prendrez le chapitre 10 et lisez. Lisez les versets. Vous allez voir comment Mamash, c'est exactement le cours qu'on est en train de dire. Comment Moshe Rabbeinu, il fait de la communication. Comment Moïse, il est en train de nous convaincre, concrètement, de nous convaincre comment tout le monde peut comprendre qu'il y a un Dieu sur Terre. Tu reprends toute l'histoire. Tu vois là, Dieu il a créé le ciel, Dieu il a créé la terre, il a créé le ciel des cieux, Dieu t'a fait sortir, tu étais là, etc. On est sorti, on était 70 personnes, il nous a sélectionné à nous, etc., etc. Et après il conclut par tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Pourquoi? Parce que si tu as réfléchi à tout ce que je t'ai dit, tu peux pas ne pas l'aimer. C'est-à-dire nous, si tu veux, nous on lit le pasuk ve'ahavta directement, sans voir son contexte, hein? Il vient revoir les satellites.
Voilà. Non, je suis en train de voir
Chazak. Très bien. Chapitre 10.
Dans Devarim ou dans
Devarim. Chumash Devarim, chapitre 10. C'est dans Vaetranan. Deutéronome, chapitre 10. Je disais, nous, quand on lit le schéma, matin et soir, on le lit hors de son contexte. C'est-à-dire, on commence un verset qui dit écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mais le « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un », il n'est pas venu nulle part. Avant que Moshe il a dit ça, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un », tu aimeras l'Éternel ton Dieu, il a dit des choses avant. Il a dit ce qu'on a dit. Réfléchis au fait que Dieu il est grand, qu'il a créé les cieux, qu'il a créé la terre, qu'il t'a fait sortir, qu'il s'occupait de toi. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose qu'on fait nous, tous les matins et tous les soirs, avant de lire le schéma. On ne lit pas le schéma directement comme ça, brut. Avant de lire le schéma, il y a des textes. Ces textes, ils racontent des choses. Ces textes, ils racontent la grandeur de Dieu. Ils font travailler ton imagination pour que tu comprennes ce que tu as en face de toi. Pour que tu comprennes comment Dieu a créé la nature. Et on te parle des animaux, on te parle des montagnes, on te parle du ciel, on te parle des anges, on te parle etc. Et après, on te dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bien sûr, je l'aime quand tu réfléchis à tout ça. Mais celui qui a rien compris, il a juste tourné des pages. Après, on lui dit tu aimeras l'Éternel, tu aimeras. Je sais pas, j'aime pas. Non. Bien sûr, tu l'aimes pas. T'as pas réfléchi. Comment tu vas aimer? Hein? Exactement. Don't speak English. Eh ben, prends le livre avec les traductions. Hein? Brian is in the kitchen.
Yes. Brian.
Where is Brian?
On the kitchen.
Where is Brian?
Huh? In the kitchen.
In the kitchen.
Hein? C'est comme ça dans les cours d'anglais, non?
Where is my wife?
I'm the kid. Je reviens sur ce qu'il disait, oui. Serge. Il disait Dieu, on l'aime, mais on ne le voit pas. Et en définitive, il a oublié une chose, Serge. C'est qu'il a fait l'homme à l'image de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Quand tu regardes autour de toi, tu as des représentants de Dieu autour de toi. Et je crois même que dans le Patario, je crois que quand tu vois une belle personne, une grande personne, ou des bonnes choses, tu dois faire une bénédiction sur la chose.
Pas venu nulle part, exactement.
Donc ça prouve bien que Dieu est partout. Oui. À travers les personnes que tu vois, qu'on les fasse en image. Oui ou non?
Oui, bien sûr. On voit Dieu, mais c'est bon, c'est vrai que ça c'est plus compliqué quand même.
Bah, c'est un peu grand puzzle.
C'est plus complexe de le voir.
Comme il a parlé des animaux, il a parlé.
Vous avez raison, il y a un texte qui dit ni Bessari.
La nature.
Ce que vous dites, c'est un texte, je crois que c'est Job qui dit ça. Il faut que je vérifie. Oui, mais le texte dit comme ça. Il dit mi Bessari et Chézé Eloka. De ma chair, au travers ma chair, je vois Hachem. Ce que vous avez dit.
D'accord.
Parce que justement, au travers ma chair. Quand tu réfléchis.
Bah oui.
C'est extraordinaire.
Ah oui. D'où on vient?
Tu vois comment avec toute la technologie qu'on essaie de faire, voilà, on essaye des fois de reproduire un certain membre, etc.
C'est impossible.
Et quand tu vois comment la régénérescence, je crois qu'ils appellent ça.
L'infiniment.
Oui. Mais on est à des années-lumière d'expliquer. L'homme ne pourra jamais prendre une goutte et en faire un bébé qui évolue, c'est impossible.
On ne crée pas X né ilo.
Et c'est quelque chose qui tourne, qui fonctionne. Tu dis, mais comment ça fonctionne?
Comment il a fait?
Comment tu peux expliquer que tu prends une graine, tu la mets dans le sol, et un arbre qui sort? D'où il sort cet arbre? D'où il sort?
la puissance de la Terre.
Tu mets 1 euro, tu sors 10 milliards. D'où il sort ces 10 milliards? Hein? Ben si, c'est ça. Tu mets une graine, tu récupères un arbre. C'est même pas 10 milliards, c'est... on peut même pas compter. Parce que dans cet arbre fera des fruits qui auront des graines, qui pourront planter des arbres à l'infini. Avec un arbre, tu peux planter toute la planète. Comment c'est possible? C'est-à-dire, tu comprends qu'en vérité, tout ça, ce sont des phénomènes qui nous dépassent. Et comprendre que ça nous dépasse, ça, on ne peut pas ne pas être admiratif devant ça. Mais là, après, encore une fois, le piège de Sarah, c'est qu'au lieu de dire le mot Dieu, il va dire le mot nature. Bon. Ça dit, moi, j'admire, j'ai une admiration devant la nature. La nature, la nature. Mais ça veut rien dire. Je sais pas, je vous donne. C'est comme si, par exemple, vous avez un sportif de haut niveau, hein. Voilà. Par exemple, Serge, j'aime bien les voitures. C'est comme si, par exemple, t'as un coureur, on appelle ça? Comment on appelle ça? Un pilote, voilà. T'as un pilote qui est là, très 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 haut niveau, qui a fait une course extraordinaire. Toi, tu regardes, tu vois pas le pilote. Toi, tu vois, il est couvert, le pilote, donc tu vois pas, tu vois la voiture. Il y a des personnes qui vont dire, ah, moi, je suis en admiration devant la Ferrari, la Ferrari, la Ferrari. On dit, moi, il y a la Ferrari, cette Ferrari, qui avait dans cette Ferrari? Ah, moi, je sais pas, moi, je connais pas, moi, je suis la Ferrari, la Ferrari, la Ferrari. La Ferrari. D'accord? D'accord?
Ah ouais,
non, la Ferrari.
La Ferrari.
Là, d'accord. Mais on te dit, mais qui conduisait cette Ferrari?
Leclerc, un pilote.
Il y avait un pilote.
C'était Serge.
Leclerc. Ah, tu comprends? Donc, c'est quelqu'un qui était derrière.
Serge qui conduisait.
Sergio.
Et n'importe quel, même si tu ne vois pas le conducteur, tu comprends qu'elle ne s'est pas pilotée toute seule. Il y a une personne qui était derrière, de la même façon.
L'italien, Sergio, l'italien.
Même si effectivement tu ne vois pas Hachem avec tes yeux, comme on disait tout à l'heure. Mais tu comprends que derrière cette nature, il y a un pilote. La Gemara, elle raconte qu'une fois, hein, il y avait un empereur, un roi ou un empereur, qui a posé la question à Rabbi Akiva. Il lui a dit, est-ce que vous avez une preuve que Dieu a créé le monde? Moi, je pense que le monde s'est fait tout seul. Alors Rabbi Akiva, c'est ce que je raconte, ça date il y a 1900 ans. Rabbi Akiva lui a répondu, il a dit, donnez-moi quelques minutes, je vais réfléchir à la question et je vous répondrai. Entre temps, l'autre va faire un tour. Rabbi Akiva dessinait très bien apparemment, un très bon peintre. Et donc il a fait une super peinture. Quelques minutes, il a fait une peinture extraordinaire. Et là, le roi ou l'empereur revient et il voit la peinture extraordinaire. Il dit, oh, c'est vous qui avez fait ça, cette peinture, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Il dit, non, moi j'ai rien fait, moi. Moi, il y avait de la peinture, j'ai jeté la peinture et il y a un tableau qui s'est fait. Yeah.
Ah, c'est
pas possible. C'est impossible. Si vous prenez de la peinture, ça fait pas ça. Il y a un tableau magnifique, c'est pas possible. Et je dis, si, je vous dis, j'ai pris la peinture, j'avais des pots comme ça, j'ai jeté et ça s'est fait tout seul. Il dit, non, pas du tout. Elle a dit, je comprends pas. Pour une simple peinture, vous comprenez que s'il y a une belle peinture, c'est quelqu'un qui l'a faite. Et pour le monde entier, vous comprenez pas que s'il y a un monde entier précis, il y a quelqu'un qui l'a fait.
Bien sûr.
Mais ce qui coûte plus cher, quand tu vois la peinture, ce qui coûte plus cher, c'est le cadre.
Ah non, ça dépend quelle peinture, ça.
Il est sur le cadre.
Ça dépend quelle peinture. La signature, il a raison, c'est la signature.
Le cadre coûte plus cher.
Il a raison, ce qui coûte plus cher, c'est la signature.
Mais le cadre, il y a une histoire comme ça, tu sais.
Le cadre.
Le tableau, combien il vaut celui-là? Il n'y avait rien du tout.
Ça, c'est au marché, ça.
Le quatrième dans une grande exposition. Elle dit, mais il est blanc, il gratte. Il dit, mais il est neuf, ce tableau, cette toile, elle est neuve. Alors l'hôtel dit, ah non, ce qui coûte cher dans la vie, c'est le cadre. C'est pour ça que tu parles de peinture.
De toute façon, c'est le cadre. De toute façon, un objet n'a pas de prix. Il a le prix qu'on veut bien. Il n'a pas de prix, absolu. Il a le prix qu'on veut bien lui donner. Hein, on est d'accord. Bon, c'est
vrai.
Ok.
Si je signe une toile, elle va pour 3,50 €. Si c'est Manet Picasso, 3 000 €.
Oui, mais si il y avait 10 000 toiles comme celle de Manet Picasso, ça vaudrait pas le prix que ça vaut aujourd'hui.
C'est la rareté.
Alors comment vous expliquez? D'ailleurs, si la toile est importante en soi, comment vous expliquez que ça change selon la rareté? Elle a une valeur intrinsèque.
Ça a pris de la valeur après leur mort.
Ah, donc,
ça
valait rien. Donc c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de valeur intrinsèque. C'est une rareté qui crée la valeur. Mais c'est normal, c'est comme ça que le monde est fait.
Oui.
Ouais, c'est
oui.
Comme ça que le monde est fait. Comment vous appelez votre...
Pareil pour les joueurs de foot.
Ah oui, il valait 1 $.
Les trucs, les œufs de poisson, comment vous appelez ça? La dame prote. Crois ça vaut cher, la dame prote.
C'est ce qui fait la grandeur du joueur.
Imaginez qu'on découvre maintenant une île dans laquelle il y a d'abord en veux-tu, en voilà. Le courant, il baisse. Comme ça.
Ok.
Bon. Mais la reine.
Des fois, on crée la rareté.
Exactement. Bon, Rabotin, je voudrais juste terminer l'introduction. Mais la reine. Allez. Mais la reine, siem dvarav à la vaso. Je suis en bas de la page 17. Velachen siem dvarav ala vaso, asher anochim tzaveh etrem la asota. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu s'est permis de dire que, en terminant son propos, il s'est permis de dire que je vous ordonne, Dieu nous ordonne de le faire. Comment tu peux donner un ordre à quelqu'un d'aimer Hachem alors qu'on ne peut pas donner un ordre? Bien sûr, je peux donner un ordre. Pourquoi je peux donner un ordre? Parce que ce que je te demande, c'est faisable. Tu peux le faire. Raconte pas des salades. Prends du recul à ton niveau. Même à un bébé, je peux expliquer ça. Même à un enfant, je peux expliquer ça. Qu'il y a un Dieu qui est grand et qu'il comprend que c'est grand. Il comprend que c'est grand, qu'on est admiratif devant ça. Même devant un enfant, tu peux expliquer ça. C'est ce qu'il nous dit ici. Shehi, j'ai tourné la page. Iyava suya belev alida bina vadab darim orimotav. Il s'agit d'un amour façonné dans le cœur par la compréhension et la connaissance sur des choses qui éveillent l'amour. Comment on a expliqué ça? Valzet iva kvar trila. Vayoet varima elle. Ashanochim tsevecha ayam alevavecha. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, intéressant, Zorin Kavana sort dans le schéma. Tu dis comme ça, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et ses paroles seront sur ton cœur. Ses paroles seront sur ton cœur.
Les siennes.
Attendez. Non, les paroles. Non, ses paroles. CES. Les paroles que je t'ordonne. CES. Quel rapport des paroles maintenant? Parole. Quel rapport les paroles?
Brida.
Non, mais je te parle maintenant d'homme au sentiment. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et ses paroles seront sur ton cœur. Mais quel rapport les paroles? Pourquoi tu parles de paroles? Bien sûr, on ne comprendra pas avec paroles. C'est quoi? C'est que grâce à quoi tu es aimé, Hachem? Grâce justement aux paroles, à la réflexion, à des mots que tu t'es imaginé dans ta tête pour l'admiration. Et ces mots d'admiration, ils arriveront sur ton cœur. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu parle des dévarim. C'est quoi les dévarim? Quelles paroles? De quoi il parle? Ou j'aime ou j'aime pas? Quel rapport les paroles? Il veut t'expliquer, cet amour, il n'est pas venu de nulle part. Il est venu avec des paroles. Maintenant, ces paroles, ça peut être dans ta bouche, ça peut être dans ta tête, ça change pas. Des mots. Tu t'es imaginé quelque chose. Tu t'es fait une scène dans la tête. Et cette scène, va yoat devarim, allevavecha. Tu les amènes sur ton cœur. C'est-à-dire que tu essayes de les approcher à toi-même. Et là, tu es ma chaîne. C'est pour ça que dans le schéma, on te parle de devarim et d'amour. On te parle de parole et d'amour. Quel rapport entre la parole et l'amour? Pour te dire comment j'ai aimé Hachem, par des paroles. Des paroles que je me suis dit à moi-même. Je me parle à moi-même. Je m'éduque. Ça s'appelle de l'éducation. Autant, dans le premier cours qu'on avait fait, on parlait d'éduquer nos enfants. Là, on s'éduque nous-mêmes. Je m'éduque comme j'éduquerais un enfant. Je m'éduque, je dis, bon, voilà, Hachem, il a fait ci, il a fait ça, je m'éduque. Et tu peux pas, quand tu t'éduques comme ça, tu peux pas ne pas avoir de résultat. C'est ce qu'il dit ici, l'Almor HaZaken. Que des chaliers, des aies, ta volé à va et ta chaîne qui était bessifri, al-pasoukse. En bas de la page 18. Veine, al-avazo, hacheni, chayach, la chon, timizav et tivoui. Sur le deuxième amour qu'on a cité, cet amour qui est un amour rationnel, celui-là, on peut te l'ordonner. Pourquoi on peut te l'ordonner? Parce que tout le monde peut le faire. On est d'accord? L'amour rationnel, l'amour issu de la réflexion, tout le monde peut arriver à ça. Est-ce qu'on est d'accord? Oui? Mm-hmm. Par contre, Aval, page 19. Aval, mais, Be'ahava Rishona, concernant la première forme d'amour dont on a parlé la semaine dernière. Sheish al Evet Olam Elea, qui est au contraire une flamme qui s'élève d'elle-même. Sauf que là, je ne sais pas si vous comprenez. Un tzaddik, c'est une autre dimension. Il n'avait pas besoin de travailler. Il a une flamme qui monte tout seul. Il se lève le matin. Ça monte. Il a un sentiment d'amour vers Hachem. C'est même pas qu'il a fait la prière, qu'il a réfléchi à quelque chose. Rien. Il a un feu qui est déjà parti. Ah, c'est trop chose. Ça, sur ça, il n'y a pas de mitzvah. Jamais Moshe te dira, tu aimeras l'Éternel ton Dieu comme une flamme qui s'élève toute seule. Une flamme qui s'élève toute seule, c'est une flamme que tu n'as pas travaillé pour l'allumer. Ça, c'est un niveau que pas tout le monde peut avoir. Un tzaddik, il est comme ça. Il a une flamme qui monte d'elle-même. Nous, on n'est pas des tzaddikim. Donc, comme on n'est pas des tzaddikim, celui qui n'est pas tzaddik, tu dis, écoute, toi, ta flamme ne va pas monter toute seule. Il faut l'allumer. Le tzaddik, sa flamme monte toute seule. Donc, le shayach lachon mitzvah et tzivu klal. Alors, vous allez me dire, mais attends, c'est Mendy, c'est pas juste.
C'est une troisième forme d'amour, ça, vous allez me dire.
Non, pas du tout. Au contraire. On revient à la première. Bah oui. La première forme d'amour, c'est un amour qui monte de lui-même. C'est l'amour du tzaddikim, sans effort. La deuxième, c'est la nôtre, l'amour par la réflexion. Maintenant, il te dit, la deuxième, je peux te l'ordonner, parce que tu peux arriver, tu peux l'atteindre, c'est faisable, tout le monde peut le faire. Mais la première forme d'amour, qui est, allez, on se réveille, messieurs, on se réveille, encore quelques minutes. La première forme d'amour, qui est un amour qui monte de lui-même vers un Kadosh Baruch Hu, ça, je peux pas te leur donner, parce que pas tout le monde peut arriver à ça. Alors vous allez me dire, mais Mendy, c'est pas juste. Comment ça se fait que les tzadikim ont ce mérite? Moi, je dois me galérer, je dois réfléchir, penser, pardon. Je dois réfléchir pour penser à l'amour d'Hachem, à quel point Hachem est grand, etc. Et j'essaye d'arriver à un résultat. Le tzadik, il se lève le matin, pac, il a déjà décollé. Toi, tu te prépares, tu vas tuquer ton moteur pendant des mois et des mois et des mois. À la fin, tu essaies de décoller. À la fin, t'en as un qui est là, qui arrive et qui dit, moi, je suis déjà là-bas. C'est pas juste. Comment ça se fait? Je vais raconter une histoire pour illustrer la question. On raconte qu'une fois, c'est une anecdote évidemment, hein, c'est pas une vraie histoire. On raconte qu'une fois, il y a un alpiniste qui décide de grimper l'Himalaya. D'accord? Il grimpe. D'accord? L'Everest, l'Himalaya. Il grimpe. Il prend plusieurs semaines. Et il arrive en haut. Maintenant, entre temps, il était avec toute une délégation, toute une équipe. Et vous savez, il y en a qui lâchent à 1 km, il y en a qui lâchent à 2 km, il y en a qui lâchent à 3 km. Il arrive en haut seul. Dernier. C'est-à-dire tous les autres, ils étaient déjà. Tous les autres, ils l'ont lâché en cours de chemin. Il arrive en haut, il se dit, je suis le champion du monde. Il arrive en haut, il voit un enfant. Il dit, mais, un enfant, un petit gosse qui est là en haut, sur le sommet. Là. Il dit, d'où tu sors, toi? D'où tu sors? Il dit, moi, je suis né ici. Là, c'est un machal. Une fois, il y a un rabbi qui est décédé. Et il a été remplacé par son fils. Et son fils était jeune. Je crois qu'il avait 25 ans, comme ça. Il y avait des vieux chassidim, qui avaient 80 ans, 90 ans. Et une fois, il y avait un vieux chassid qui a dit, écoutez, Rabbi, je veux vraiment vous écouter, mais j'ai beaucoup de mal à vous, je vous ai connu bébé, quoi, même plus avant que bébé. J'ai beaucoup de mal à vous prendre en tant que Rabbi, je comprends pas. Et là, il lui a raconté cette anecdote. Et il dit, tu vois, celui qui arrive en haut, le bébé, il lui dit, moi, je suis né en haut. Le tzadik, il est né en haut. Tu dis, quand tu entends une histoire comme ça, tu dis, mais c'est pas juste. C'est pas juste. C'est biaisé dès le départ, ça. C'est pas normal.
C'est pas un talent,
oui, mais je comprends, mais c'est pas normal. Alors, regardez ce que dit l'Admor HaZaken. Il dit, en vérité, cet amour inné que les tzadikim ont, comme la flamme qui monte d'elle-même, c'est un cadeau qu'il leur donne. Quand un tzadik a fait un travail extraordinaire dans sa vie, Hachem lui dit, je vais te donner un cadeau. C'est quoi le cadeau? Je vais te donner ici-bas un avant-goût du monde futur. C'est quoi l'avant-goût du monde futur? Tu te lèves le matin, sans rien faire, t'as la flamme qui décolle vers Hachem. C'est comme ça, monde futur. T'as pas besoin de faire des efforts. Tac, direct, ça part tout seul. De la même façon, vous savez, c'est un peu comme quand t'es devant un aliment. Est-ce que quand t'es devant un plat appétissant, est-ce que t'as besoin de te convaincre que, ah, c'est appétissant, il faut qu'on prenne le plat, il faut se servir, etc. Est-ce que t'as besoin de faire un calcul pour te servir?
Tu plonges direct.
T'as très faim, le plat est appétissant. T'as même pas besoin de faire un calcul, c'est automatique. Maintenant, imaginez si on était comme ça devant un lit de Torah. T'es devant un lit de Torah, t'as même pas besoin de réfléchir. J'ouvre pas, je reste 5 minutes, je reste 10 minutes. Tu ouvres, et c'est inné. T'es dedans, quoi. T'es dans le coup. T'es né dedans. Avec la cuillère dans la bouche. C'est les tzadikim, ça. Mais pourquoi les tzadikim ont ça? C'est un cadeau qu'Hachem leur donne. Un avant-goût du monde futur. Est-ce que nous, on est les tzadikim? Non. Donc, est-ce que nous, on peut nous demander un niveau comme ça? Non. On n'est pas comme ça. C'est pas grave. Il faut pas chercher à être ce qu'on n'est pas. Ne cherche pas à être ce que tu... Exactement, de la même façon que, comme dans l'éducation, faut pas pousser un enfant vers une direction qu'il ne peut pas prendre. De la même façon, quand on parle ici maintenant de Emouna, de crainte et d'amour d'Akadosh Baruch Hu, ne te dirige pas vers une direction qui n'est pas la tienne. Prends quelque chose qui est à ta portée. Avance comme ça, doucement, doucement. Shalan Yemar, avoda matana etenet kuonatre. Ok. Non, dit l'Admor HaZaken. Page 20. Ah, il y a doua, il y a le yodin tamadikra, maïdati kishé va pas tzadikdika. Cependant, il est connu ce qui est écrit. C'est écrit que le tzadik, il tombe et se relève 7 fois. Bifrat, shadani kramela, velomed, vetsarich la lechet, imadriga, le madriga, velomed marigar le kula. Un étude de Mourazak, quelque chose de très important. Et tu dis, ne crois pas que tout ce qu'on vient de te dire, c'est un effort que tu fais une fois dans la vie. Que moi je fais un effort une fois pour être admiratif devant Hachem, après j'ai l'amour et la crainte, et le tzadik, sans effort, il décolle. Non. L'homme a un challenge constant. Et c'est exactement ce que le prophète dit. Il dit que le tzaddik tombe cette fois et se relève cette fois. Mais s'il est tzaddik, comment il tombe? Comment il se relève? Pourquoi il se relève? Il est plus tzaddik. Ce qu'on veut t'expliquer par là, c'est que dans la vie, on est en constante évolution. Et même le tzaddik, il doit être en constante évolution. Seulement, c'est pas la même évolution. L'évolution du tzaddik et la mienne, c'est pas la même. Lui, il a une évolution d'une flamme qui monte d'elle-même et qui monte encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Moi, c'est pas la même chose. Moi, mon évolution, c'est pas d'une flamme qui monte d'elle-même. C'est d'être là constamment tous les matins. T'as du feu, donne-moi du feu. T'as pas du feu, et t'allumes, essaye d'allumer. Et ça s'éteint, il y a du vent, et t'essaies d'allumer. Et il y a du vent, t'essaies d'allumer. C'est ce qu'on fait finalement.
Mais c'est d'accord,
il tombe. Ça veut dire que par rapport, ce qui explique, c'est le Morazaken. Je t'explique. Ce qui va expliquer, c'est le Morazaken. Je vais expliquer à l'oral, et on va terminer avec ça. C'est qu'en fait, ce qui va t'expliquer ici, imaginez par exemple, je vous donne un exemple physique. Imaginez par exemple qu'aujourd'hui j'arrive à porter 20 kilos. Allez, on va parler, Michel est devant moi. Aujourd'hui j'arrive à courir 1 km, non-stop. 1 km, j'arrive à courir 1 km. Alors Michel il va me dire, Mendy, 1 km c'est bien. Maintenant il faut viser 2 km. Pour moi 2 km c'est un challenge. 2 km c'est le sommet. Donc je vais écouter Michel, je vais dire bon, Michel a raison. D'accord, on met une statique, on met tout ce qu'il faut, on y va, on met la basket et on y va. Je m'entraîne et effectivement je cours. Au bout de 2 mois, je suis habitué à rouler, à marcher 2 km, à courir 2 km. D'accord. Très bien. Hein.
Bon,
ok. Imaginons 1 mois. Au bout d'un mois, je me suis habitué tous les jours. J'arrive à courir 2 km. Maintenant 2 km, c'est ma norme. Ok. Maintenant qu'est-ce qu'il faut? Attendez. Non. Attendez. Maintenant, Michel, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire Mendy.
T'as fait deux,
il faut passer à 4. Ah. Ou à 3. Il faut passer à 3 km maintenant. Maintenant, moi je dis non, moi je reste à 2. Donc, du coup, si je reste à 2, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que potentiellement j'aurais pu arriver à 3, rester à 2, ça s'appelle une chute.
Stagner.
Maintenant, tu vas dire, mais non, c'est pas une chute. Je suis resté à 2. C'est pas une chute, c'est bien 2. La preuve, c'est que hier tu m'as dit que 2 c'est le challenge. Voilà, je suis au challenge, je suis resté, j'ai pas évolué. Je te dis non. Lorsque tu n'as pas évolué alors que tu aurais pu évoluer, la non-évolution est comparée à une chute. Mais non, ça ne veut pas dire que tu es tombé. Une chute, ça ne veut pas dire que tu es tombé. Ça veut dire que tu n'as pas avancé comme tu aurais pu avancer. Donc ça s'appelle une chute. Même si tu stagnes, ça s'appelle une chute. Chute, ça ne veut pas dire tomber. Ça veut dire tomber potentiellement. Comme tu aurais pu arriver à 3 et tu es à 2, donc tu es tombé de 3 à 2. Tu dis, mais j'ai jamais fait 3. Oui, mais tu aurais pu faire 3. Donc comme tu n'as pas été à 3, donc tu as chuté de 3 à 2. C'est une chute. Et si vous voulez, c'est ça, David a posé la question, il a dit, c'est quoi la chute du tzaddik? C'est ça la chute du tzaddik. Le tzaddik ne tombe pas, parce que sinon il n'est plus tzaddik. Mais il tombe dans le sens qu'à un moment il arrive à un stade dans lequel il aurait pu décoller un peu plus et il reste au même niveau. On dit, ah, Hachem il dit attention, t'es tombé. Je suis pas tombé. Si t'es tombé, parce que comme t'aurais pu être plus haut, t'es resté là, donc t'es tombé. Je suis pas tombé. Oui, mais comme t'aurais pu être plus haut et que tu n'es pas allé plus haut, donc dans l'absolu, c'est comme si t'étais tombé. C'est-à-dire que dans la vie, on doit constamment évoluer. Quand on n'évolue pas, on tombe. Il y a des gens qui pensent dans la vie, dis-moi je suis en stand-by, vitesse de croisière.
Le Shabbat m'arrête.
Tu comprends, il a mis le cruise, ouais. Tac, l'été, il est en haut, il a mis sur automatique, tchouk, il avance. Ça marche dans les voitures, ça marche pas dans la vie.
Comme une bicyclette.
Dans la vie, on n'est pas sur automatique, c'est pas possible. Dans la vie, t'es pas sur automatique. Soit tu montes, soit tu descends. Y a pas droit. Il y a que des montées et des descentes dans la vie. Y a pas de stagne, ça n'existe pas. Si tu montes, tant mieux. Tu montes pas, qu'est-ce qui se passe lorsque t'arrêtes de pédaler? Qu'est-ce qui se passe?
Tu tombes.
Ouais. Maintenant, il y en a un qui va dire, non, moi j'arrête de pédaler, mais je garde les pieds sur la pédale. Comme ça, je descends pas et je monte pas.
Le surplace, ça marche pas.
On dit, ok, c'est vrai que tu tombes pas, c'est bien, mais comme t'aurais pu aller plus haut et que tu n'as pas voulu te dépasser, donc ça s'appelle une chute. Parce que dans la vie, un homme doit toujours évoluer. Et c'est ce qu'il veut dire ici, là, de Morazaken. Morazaken, il veut te dire, que le but de tout ça, c'est d'évoluer constamment. Il y a un mot que dit l'Admor Hazaken, on va terminer avec ça, qui dit le challenge d'aujourd'hui est la limite de demain. Ça veut dire, si par exemple aujourd'hui j'arrive à courir 1 km, donc mon challenge c'est de courir 2 km. Mais une fois que demain je me serai habitué déjà à courir 2 km, donc mon challenge d'aujourd'hui qui était 2 km est devenu ma limite de demain. C'est-à-dire que demain, 2 km c'est ma limite. Pourtant, hier, c'était mon challenge. C'est-à-dire que tout est relatif. C'est pour ça que même le tzaddik, il doit constamment évoluer. Nous aussi. On peut pas, ce qui veut dire le Morazaken, tu ne peux pas te contenter d'un amour élémentaire de Dieu, d'une crainte élémentaire. Tu dis, bon, comme un bébé. Tu dis, pourquoi tu aimes Dieu? Tu dis, bon, on gagne, on m'a appris. On m'a appris, Hachem est ici, Hachem est là, Hachem est partout à la fois. Donc j'ai retenu ça. Je comprends, c'est ce que tu dis, c'est vrai, que Hachem est partout et que tu as bien compris que Hachem est partout. Mais ça, tu l'as pris au GAN. Qu'est-ce que tu as fait depuis le GAN ?
Pour évoluer.
Tu as fait quoi ?
Un diamant.
Est-ce que tu t'es travaillé dessus ? Est-ce que tu travaillais pour développer ? C'est ce qu'il te dit ici. D'accord ? Alors, maintenant, comment on fait pour arriver à l'Emouna ? Pour arriver à l'Emouna, il faut la réflexion. Ça, c'est tout ce qu'on vient de faire, les trois coups qu'on vient de faire, cette semaine, la semaine dernière, la semaine d'avant, c'était seulement une introduction. Une introduction pour commencer, si Dieu veut, la semaine prochaine, à mon retour chez le Rabbi Bezrat Hashem, pour commencer, Bezrat Hashem, Shar Ekhoud Ve'emouna, dans lequel on va commencer, on va nous expliquer comment réfléchir, comment trouver Dieu partout. Parce que ça, c'est l'objectif maintenant. J'ai compris. Là, tu m'as mis l'eau à la bouche, là. Là, tu m'as dit une chose très simple. Tu m'as dit, les tzadikim, ils décollent tout seuls. Bon, ça, j'ai compris que je suis pas tzadik. Tu m'as dit, les autres, ils doivent réfléchir. Et s'ils réfléchissent comme il faut, eh ben, ils vont avoir un amour, l'admiration automatiquement. Dis-moi à quoi je dois réfléchir. Explique-moi comment je peux arriver à trouver Dieu partout. Comment je peux arriver à trouver Dieu dans le verre d'eau, dans le bretzel, dans le bamba, dans le cracker. Comment je peux trouver Dieu dedans? Où je veux trouver Dieu dedans? Comment je peux faire ça? Ça, c'est Shar Ekhoud Ve'emouna. Tout le cours qu'on a expliqué, c'est juste pour introduire cette idée. Que l'objectif de Shar Ekhoud Ve'emouna, c'est d'essayer de trouver Dieu partout. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon pour le commun des mortels d'aimer à Kadosh Baruch Hu. Sinon, on ne peut pas aimer à Kadosh Baruch Hu. On est d'accord? Voilà, c'est une introduction et on continuera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Prends deux semaines.
Autour il a dit d'être.
Oui, si tu veux. Je retourne dire.